Chère communauté, chers amis, en ce deuxième dimanche de Carême, la liturgie nous propose de gravir deux montagnes, deux sommets singulièrement célèbres. Le premier, où Abraham offre à Dieu son Fils unique, le second, où Dieu offre son Fils transfiguré au monde. Ces deux épisodes sont proches l'un de l'autre en raison du lieu et de l'enjeu, mais plus encore parce que les deux, par la prise en compte de la mort des fils, nous indiquent le chemin de la résurrection. Dans le récit de la Genèse, il semble que Dieu exige de la part de l'homme quelque chose d'impossible, voire d'inhumain. Comment Dieu, qui est amour et miséricorde, peut-il demander le sacrifice d'un fils? Est-ce de l'incohérence de la part de Dieu qui demande la mort du fils de la promesse? L'enfant était pratiquement né sous le signe du miracle. Il intègre à lui seul toutes les promesses de descendance que Dieu avait faites. Revenons à l'événement et au fait. Au temps d'Abraham, l'exigence de tel sacrifice notifiait quel était l'attachement de l'homme à la divinité qu'il honorait. Le grand patriarche Abraham lui-même a sans doute été interrogé au plus profond de son cœur sur les mêmes conditions d'attachement au Seigneur de l'Alliance. Son épreuve était de répondre à la manière de son temps, à l'expérience et à la teneur de sa propre foi. Aimait-il Dieu au point de lui sacrifier ce qu'il aimait le plus au monde? Ce récit que nous lisons dans le livre de la Genèse est remarquablement bien construit. Nous pouvons le relire. L'auteur nous fait part de tout ce que ressent Abraham, son attachement à Dieu, son amour pour son fils et son angoisse devant la décision qu'il doit prendre. L'auteur est assez génial pour nous mettre nous-mêmes devant cette joie. De quoi est-il réellement question dans ce texte? Abraham ne sacrifiera pas son fils car l'ange du Seigneur lui-même ne lui permettra pas. Cet ange, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu de l'Alliance et de la vie. Son intervention est vitale. Elle met dans l'ordre dans le cœur d'Abraham. Elle invite à bien considérer le maître de la vie. Dieu n'est pas comparable aux fausses divinités qui exigent la mort du Fils. Il est le Seigneur de la promesse, de la vie. Si l'auteur nous indique que le patriarche peut en effet offrir un bélier en holocauste, c'est pour signifier que le vrai culte rendu à Dieu, c'est une célébration de la vie et d'avenir que Dieu nous fait. La seconde montagne de notre liturgie rapporte la présence d'un autre fils. Il s'agit de Jésus, transfiguré, entouré de plus grands représentants de l'histoire sainte, les témoins par excellence de l'Alliance que Dieu a promise à son peuple. En un mot, il représente toute l'écriture accomplie en la personne du Christ Jésus. Cette montagne est comparable à la première, puisqu'elle célèbre par avance la vie du Christ qui se manifestera dans sa résurrection. Comme les trois disciples témoins de l'événement, chaque croyant que nous sommes est appelé à entendre la voix dans la nuée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez. Au-delà de cette contemplation, l'évangéliste Marc recentre alors l'intérêt d'une telle démarche. Qu'il n'y a plus Moïse, ni Élie, mais Jésus seul. La véritable démarche du croyant sera de descendre de cette montagne de la transfiguration pour suivre Jésus jusqu'à Jérusalem, jusqu'au don total de la vie. Cette démarche est un signe de l'espérance qui nous habite. Jésus nous donne ce dimanche l'occasion de nous arrêter sur la montagne afin de nous laisser transfigurer par Dieu. Le mystère de cette transfiguration se laisse découvrir dans une relation. En effet, c'est parce que nous sommes en relation personnelle avec le Christ que nous prenons conscience que nous vivons de sa présence. Nous pouvons alors tenter de comprendre ce qui nous dépasse. Mais entrer en relation avec Dieu n'est pas quelque chose d'aisé, puisque nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, nous ne l'entendons pas, en tout cas pas directement. Non, nous le ressentons. Comme si Dieu n'acceptait de se dévoiler que de manière indirecte à ses créatures. Dans ce chemin de foi, au départ, d'autres nous ont parlé du Christ, de sa vie. Puis un jour, nous avons choisi de croire et de suivre cette route parsemée de certitudes et de doutes. La relation à Dieu se construit alors comme toute relation. Elle prend du temps, de la découverte mutuelle. Le temps nécessaire pour que nous puissions nous apprécier, nous aimer. Puis vient le temps du silence, du bien-être ensemble. Ce temps où le mot importe peu, car le silence grave en nous quelque chose de beau et que nous ne pouvons pas définir. La relation ainsi établie s'enracine en chacune et en chacun de nous, et nous la nourrissons par ce désir, nous la nourrissons ce besoin incessant de rencontre. Nous sommes conviés à croire en cette expérience merveilleuse. L'amour est plus fort que la mort. Cette dernière, la mort, est vaincue. Un jour, nous passerons de la vie à la vie éternelle. Telle est la promesse de Jésus contenue dans le mystère de sa transfiguration. Une vie par-delà la vie. Nous ne pouvons pas le comprendre, seulement croire et l'espérer. Que cette joie de notre espérance résonne en notre vie, toujours et partout.